La tradition de la tombe du soldat inconnu est née de la Première Guerre mondiale et se retrouve dans de nombreux pays. Une telle tombe contient les restes d'un soldat tué au combat et dont on ignore le nom. En tant que mort inconnu, il représente tous les morts du conflit. Les deux premiers soldats inconnus installés dans une telle tombe furent un Français et un Anglais, le 11 novembre 1920, en honneur des combattants tués pendant la Première Guerre mondiale. La tombe française du soldat inconnu se trouve à Paris. Si vous êtes déjà à Paris et que vous avez vu l'étoile, l'Arc de Triomphe, si vous avez vu l'Arc de Triomphe, juste en dessous de l'Arc de Triomphe, il y a la tombe du soldat inconnu. Si vous êtes allé à Londres, vous allez voir la tombe anglaise du soldat inconnu qui se trouve à l'abbaye de Westminster, si vous connaissez Londres. Au Canada, la tombe du soldat inconnu se trouve devant le monument commémoratif de guerre du Canada, sur la place de la Confédération, au cœur du centre-ville à Ottawa. Le soldat inconnu représente les quelques 116 000 Canadiens et Canadiennes qui ont donné leur vie pour leur pays, dont environ 28 000 soldats qui n'ont aucune sépulcre connue. La tombe consiste en un sarcophage de granit de la Beauce au Québec. Un haut degré de la cérémonie et de la sobriété est associé avec ces traditions. Je me souviens très bien, quand j'avais peut-être 13 ou 14 ans, ma famille est allée à Washington, D.C., aux États-Unis, pour regarder la capitale et pour faire la visite de tous les musées, les monuments des États-Unis qui se trouvent à Washington. Et parmi ceux que nous avons visités, c'était la tombe du soldat inconnu. Et je me souviens que c'était bien affiché à l'entrée qu'il fallait rester silencieux et qu'il fallait aussi respecter les consignes du lieu. Parce qu'il voulait un environnement, une ambiance de silence. Et il y a un sentinelle, qui fait là-bas un sentinelle 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Et ils sont changés tous les demi-heures. Et on peut regarder la cérémonie de changement et de l'inspection du sergent qui vient sur place surveiller ses soldats quand ils font l'échange. Et ils font avec ça des fusils et tout. C'est vraiment très bien. Si vous allez voir ça, vous allez comprendre le haut degré de la cérémonie de ce lieu-là. Donc, prenons un parallèle ici en reportant 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. L'apôtre Paul, qui est connu pour avoir formé Timothée, pour avoir donné des instructions très importantes à ce jeune évangéliste, Paul rappelle à Timothée la définition d'un soldat. 2 Timothée chapitre 2, commençant avec le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc je m'arrête là, même si ça coupe la phrase un petit peu. Paul emploie l'image, le symbole d'un soldat pour dire à Timothée de rester vigilant et de rester fort, aguerri, et de ne pas lâcher la lutte. Un bon soldat lutte pour la victoire, pas pour lui-même, un bon soldat lutte pour la victoire, malgré le fait qu'il risque de perdre sa vie. Même s'il perd sa vie, c'est pour le gain de son pays. Celui qui est engagé dans une lutte armée ne commence pas à se battre à 9 heures du matin, puis après le petit déjeuner, pour finir à 17 heures le soir, pour rentrer chez lui. Il ne fait pas ça. On voit mal un soldat en campagne aller voir le sergent et lui dire « Oh, ça commence à bien faire. J'ai d'autres obligations maintenant. Vous êtes très bien, alors je dois vous quitter. Continuez la bataille sans moi et bon courage. » On ne voit mal ça, n'est-ce pas? Le bon soldat va persévérer jusqu'à la victoire. Il y a grand nombre d'inconnus qui ont réussi à surmonter les épreuves de ce monde et qui auront accès à la première résurrection. Pour moi, ils sont comparables à des soldats inconnus. Qui sont-ils? Où sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Nous ne connaissons pas toutes les réponses à ces questions. Nous connaissons par contre une petite partie de leur nom, si nous regardons dans la Bible, mais il y a beaucoup de bons soldats inconnus. Certains mystères de la Bible ne seront pas révélés tant que les résurrections n'auront pas eu lieu. À l'heure actuelle, nous savons que ces catégories existent. Il y a des catégories. Par contre, nous ne pouvons pas, avec certitude, énumérer tous ceux qui appartiennent à chaque catégorie. Je vais y arriver. La fin n'est pas encore arrivée et il pourrait y avoir des bouleversements et des épreuves qui en feraient tomber certains. En même temps, Dieu le Père appelle toujours des individus et continuera de le faire. Nous le savons parce que Christ nous a dit que l'Église continuera jusqu'à la fin, que la tombe ne prévaudra jamais sur l'Église. Quelles sont ces catégories dont je vous parle? Après avoir annoncé les événements du temps de la fin, Jésus dit quelque chose à ses disciples. Matthieu 24 et le verset 31. Nous sommes encore dans la prophétie du mont des Oliviers. Quelque chose qui nous donne de l'encouragement, de l'espérance pour l'avenir, parce que malgré tout ce qui va se passer, malgré la grande guerre, si vous voulez, au temps de la fin, malgré la lutte de la vie chrétienne, malgré les épreuves, malgré les combats que nous allons rencontrer, Jésus nous rassure. Il nous donne du confort. Il nous donne de l'espoir. Verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. » Nous sommes juste un mois à peu près de la fête des trompettes et nous voyons ici cet exemple de trompette retentissante. Et nous voyons ici qu'il y a l'une des catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure, les élus. Les élus qui seront rassemblés d'une extrémité des cieux à l'autre. C'est Christ qui va les rassembler. Ce n'est pas nous qui décidons, qui jugeons qui sont les élus, qui ne sont pas les élus. C'est lui qui est le juge. C'est lui qui va appeler. Et ceux qui sont les siens reconnaîtront sa voix. Même dans le tombeau. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Mais au temps de la fin, il y aura ces personnes choisies encore vivants aussi. Au temps de la fin. Il y aura, avant la première résurrection, il y aura des personnes qui appartiennent à l'Église, qui appartiennent à Christ. Et il va les ramener aussi, les quatre vents. Jean 15, 19. Pour souligner le fait que c'est lui qui choisit. C'est ce mot « choisi » ou « élu ». En fait, c'est le même mot grec. Jean 15, verset 19, nous lisons « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. » Donc, nous sommes capables d'être choisis, d'être élus à ce moment, avant son deuxième avènement. Mais le mot grec que nous avons lu ici entre « élu » et « choisi » est toujours le même. Le mot grec, et nous allons revenir là-dessus bientôt. Considérons d'abord, par contre, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 et le verset 5 à 6. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc, nous avons encore une fois ce rappel que nous avons été choisis ou appelés et puis choisis du monde. Donc, il y a un processus qui se passe ici. Et il y a quelque chose que je voulais souligner ici, c'est que le mot païen ici, dans cette version, dans la version Louis II, est en fait le mot grec ethnos, qui veut dire peuple ou nation. Ce n'est pas vraiment un jugement contre leur religion, c'est intimé, mais le mot veut dire les peuples, les nations, parmi lesquelles vous êtes appelés de Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés du monde. Nous sommes choisis du monde. Et puis, il y a une troisième catégorie, nous serons fidèles à la fin aussi. Donc ça, ce sont les trois catégories. L'appel lui-même, ce n'est pas pour tout le monde en ce moment. Donc, nous avons également ceux qui ne sont pas encore appelés. Donc, nous avons les non-appelés ou ceux qui ne sont pas appelés, ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus ou choisis et ceux qui resteront fidèles. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un mystère pour nous parce que c'est Christ qui juge ces choses. C'est Christ et le Père qui sont en train de créer ce que représente l'épouse de Christ, l'Église. Mais il est en train d'appeler, donc Dieu est en train d'appeler et de préparer quelque chose pour l'avenir. Considérons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. C'est étonnant de compter ou de remarquer combien de fois le Nouveau Testament discute ces catégories. C'est comme si on avait un certain cheminement défini devant nous et qu'il faudrait juste le suivre. Il faudrait avancer dans ce cheminement une fois que nous sommes appelés. Parce que l'appel de Dieu représente une invitation à quelque chose. Éphésiens 4 et le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc nous sommes appelés. Paul écrit aux Éphésiens, il parle de l'unité de la foi ici, il parle de l'appel qui est en commun entre nous. Nous qui sommes là, nous qui sommes ici, nous avons eu le même appel, la même invitation, et en plus, nous avons une invitation à la même chose. Notre invitation, en général, l'invitation qui est envoyée, c'est pour la même chose aussi. Donc, tout le monde reçoit la même invitation, même si Dieu a choisi que certains servent de différentes façons. Le but ultime de cette invitation, c'est d'appartenir à Dieu, d'appartenir à son Église. Et c'est ça l'invitation. Mais il y a aussi ce mot vocation aussi, vocation. Considérons Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3 et verset 14. Verset 14, nous lisons. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, dans un sens, nous sommes tous appelés par la même vocation, d'appartenir à Dieu, d'appartenir à Jésus-Christ, même si nous avons de différentes fonctions, comme Paul explique plus loin dans Éphésiens 4. Il y a de différentes fonctions dans l'Église. Mais nous sommes unis par cet appel, par cette espérance dans l'avenir aussi. Considérons encore une fois 2 Timothée, maintenant au chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Ce n'est pas juste une invitation que nous recevons qui est informelle, qui n'est pas importante. C'est quand même quelque chose de très important, cette invitation, cet appel. Et nous reconnaissons l'importance de l'appel de Dieu. Mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir un rappel, de considérer les étapes devant nous. Considérons maintenant 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 8. 8 et 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Quelle invitation! Ça, c'est une invitation très importante, une sainte vocation. Considérons juste en quelques versets ici, ça résume beaucoup que Dieu a fait pour nous. L'opportunité qui est devant nous est quand même très importante. Et nous savons tous, nous connaissons tous Jean 6, verset 44. C'est le Père, en fait, qui nous attire. Si ce n'était pas clair, c'est clarifié ici, dans Jean 6, verset 44, parce que c'est Jésus qui le dit lui-même. Mais il y a une façon d'appeler aussi. C'est le Père qui attire. Le Père qui attire. Considérons ce qui est dit ici au verset 44, Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce sont des mots très simples, mais on peut constater une différence même ici entre le fait que c'est le Père qui attire, c'est le Fils de Dieu ici, qui a été envoyé pour faire quelque chose. Donc, un rôle accompli par le Fils. Mais il a dit plus tard, dans Jean 15 à 17, qu'ils sont unis. Le plan est quand même en commun entre les deux. Donc, si le Père attire, Jésus-Christ est bien d'accord pour nous recevoir comme notre grand berger. Et c'est lui qui s'occupe de nous. Il s'occupe des appelés, des élus et ceux qui vont rester fidèles. Ces mots représentent des catégories très importantes pour notre compréhension du plan de Dieu maintenant et à l'avenir. Le Christ a donné une parabole qui touche essentiellement à tous ceux qui rentreront en contact avec la vérité dans cette vie. Vous pensez peut-être déjà à la parabole du semeur. Considérons Luc chapitre 8. Considérons aujourd'hui ces catégories et les différences qui distinguent les catégories. Luc chapitre 8. Commençons avec le verset 4. Une grande foule s'étant assemblée, et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit, au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Continuons maintenant, verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. C'était pas évident. C'était pas évident pour tout le monde à quoi ça signifiait. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc nous avons déjà une première catégorie ici, ceux qui ne vont pas recevoir la parole. Ça nous démontre qu'il y a une déception qui existe. Il y a une déception, il y a un voile qui est devant les yeux de l'humanité. Et nous sommes bénis ceux qui ont le voile enlevé. N'est-ce pas? Mais ça indique que c'est la puissance de ce monde qui empêche qu'ils reçoivent la vérité. Mais c'est aussi prévu. Tout ça, c'est prévu. C'est pas une surprise pour Dieu que cette chose arrive. Il le dit d'avance. Il l'explique bien. Il ne dit pas que c'est le diable est trop fort pour nous et on ne peut pas lutter contre le diable. Ce qu'il dit, c'est que c'est ça qui est en train de se faire dans le monde actuel. Donc, il enlève de leur cœur la parole. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont aveuglés. Donc, nous avons, dans une certaine façon, au bord de la route, nous avons cette catégorie de personnes qui ne reçoivent pas, qui ne sont pas appelés. Donc Dieu laisse faire, Dieu laisse ces choses arriver. Il comprend que Satan est pour aujourd'hui le roi de ce monde. C'est quelque chose que Dieu laisse faire. Donc nous avons quand même, nous avons cette catégorie de personnes qui n'ont pas été appelés parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Et donc, la Bible contient plusieurs termes pour décrire ces personnes. Considérons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Des fois, ils sont appelés des trompés, les ignorants, les aveugles, les étrangers. Mais cette catégorie de personnes qui ne reçoivent pas la parole de Dieu est définie plusieurs endroits dans la Bible. Romains chapitre 11 et le verset 7. Romains chapitre 11 et le verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Donc nous avons cet exemple d'un certain endurcissement, un aveuglement que Dieu laisse faire. C'est eux qui, quand même, ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont abandonné la voie divine, même si ils avaient même dans leur histoire, dans leur passé, ils avaient rencontré la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu. Mais ils ont abandonné et ils se sont, Dieu leur a laissé un esprit d'assoupissement pour qu'ils ne puissent plus voir. Continuons au verset 19. Verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Et ça continue. Nous pouvons sauter quelques versets, au verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des nations ou des païens soit entrée. Donc Dieu a laissé faire cette chose. Eux, ils étaient en rébellion et il a laissé cet endurcissement. Le bord de la route est endurci. Il n'y a rien qui pousse par là, au bord de la route. C'est comme si c'était pas dans le champ. C'est presque à la limite entre la route et le champ. Le champ dans lequel on va avoir du fruit. Mais pas 100% du champ. Mais on va avoir du fruit poussé dans le champ. Reprenons maintenant Luc chapitre 8, encore une fois, revenant à la parabole du semeur. Parce que tous ceux qui ont jamais vécu recevront un appel, soit dans leur vie présente, soit dans l'avenir. Donc il y a bien une promesse que tout homme, toute la création divine, tous les hommes, tous les descendants d'Adam auront la possibilité de recevoir un appel, un vrai appel. Pas un appel qui est moins puissant, qui est complètement... c'est pas Satan qui va empêcher ça pour toujours. Comme je vous ai dit, Dieu le laisse faire aujourd'hui. Mais quand Satan sera lié, et puis on aura la deuxième résurrection, la fin du millénium, il n'y aura pas cette influence-là. Et c'est bien écrit en Ésaïe que la parole de Dieu sera comme de l'eau qui va couvrir la terre. Et pour aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce cadre. Luc 8 et le verset 12. Donc, prenons ici le verset 12. Ceux qui sont, voilà, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Maintenant, nous allons continuer. Avant d'aller plus loin, sautons quelques versets pour considérer le contexte des autres catégories que nous allons discuter. Je vous ai dit, il y a plusieurs catégories. Considérons Luc chapitre 8 et le verset 18 maintenant, avant d'aller plus loin. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutiez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La manière dont vous écoutez est importante. Ceci est très important pour les autres catégories. Si ce n'était pas le cas, on pourrait dire que tout est prédéterminé et qu'on n'a rien à faire. Mais c'est bien souligné que la façon avec que nous écoutions la parole est importante. La vérité nous révèle notre part dans la réception de la parole de Dieu. C'est nous qui possédons notre cœur. C'est nous qui développons un cœur qui plaît à Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons juste laisser faire, comme des mauvaises herbes dans le jardin. C'est très important que notre cœur soit prêt à recevoir la parole de Dieu. Considérons maintenant notre deuxième catégorie. Si quelqu'un est appelé, son esprit, ses yeux ont été ouverts spirituellement. Donc maintenant, nous parlons de ceux qui sont appelés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Donc, ces appelés, ici, au verset 13, ne font pas la prochaine étape. Il y en a parmi ceux qui vont faire la prochaine étape, mais ce verset ici parle de ceux qui reçoivent qui ne sont pas empêchés comme les autres, les non-appelés, mais ceux qui sont appelés, mais ceux qui ne développent pas de fruits, ceux qui ne sont pas prêts pour aller plus loin. Ils reçoivent, ils écoutent, ils reçoivent la parole sur quelque chose dur, quelque chose comme un roc. Ce n'est pas le diable qui vient enlever la parole, c'est leur cœur. C'est leur cœur dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas tout. Le monde voudrait peut-être nous faire penser qu'il n'y a que deux catégories et que l'une va au paradis et l'autre va en enfer. Et ceux qui sont appelés vont au paradis parce qu'ils ont entendu le mot Jésus-Christ et ceux qui n'ont jamais entendu le mot Jésus-Christ qui vont en enfer. C'est ça que le monde dit des fois. C'est philosophiquement, il est plus facile à expliquer 1 ou 0. 1 ou 0, c'est binaire. Mais la vérité de Dieu n'est pas de la philosophie. Vous pourriez même dire qu'elle n'est pas logique, la vérité de Dieu, dans certains sens. Cela n'a de sens que par l'inspiration de Dieu. Et cela s'accomplit d'abord dans la vie d'un chrétien, par l'appel du Père. Il nous appelle par le Fils. Ainsi, nous pouvons comprendre que l'appel de Dieu est une ouverture de l'esprit à la compréhension des paroles du Christ. Et même si l'esprit est ouvert et on comprend, et on peut avoir une compréhension, on peut avoir aussi un cœur endurci qui résiste au changement. La grâce de Dieu en particulier défie la logique humaine. C'est au-delà des mots. C'est pourquoi il a fallu que Christ nous montre pour démontrer que l'amour de Dieu est au-delà de l'explication humaine, des idéaux humains et de la philosophie humaine. La vérité de Dieu dépasse toutes ces choses. Nous avons donc ces catégories qui sont au-delà de celles de ces noms appelés. Considérons maintenant un verset clé Apocalypse 17 et le verset 14. Vous avez peut-être ça en tête depuis le début. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà la lutte. L'autre côté de la bataille, c'est une lutte et eux, ils vont vaincre. Les appelés, les élus, les fidèles. Donc, on a ces trois catégories ici qui nous intéressent dans notre discussion aujourd'hui. Il y a bien une distinction entre les trois. Même les mots grecs sont différents. Les mots grecs sont kratos, Eklektos et pistos, donc les appelés, les élus et les fidèles. Ce n'est pas parce que vous êtes appelés que vous serez élus. Ce n'est pas parce que vous êtes élus que vous serez fidèles. Jusqu'à la fin des temps, il y aura encore ces catégories. Ce n'est pas une garantie que quand vous soyez appelés, que vous allez rester fidèles. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 et le verset 14. Ici, après cette parabole du festin des noces, avec cette idée de l'invitation qui est envoyée, mais il y en a qui refusent à accepter l'invitation. Il y en a qui même persécutent le serviteur qui va délivrer les invitations. Et puis, enfin, on a le verset 14, ce sont les paroles de Jésus, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Donc, à chaque fois que je vous donne un exemple comme ça, ça va contre ce que le monde nous dit. Le monde nous dit que si nous sommes appelés par Dieu, il n'y a rien qui peut se faire, et rien qui, on n'a pas besoin de changer, on n'a pas besoin de s'accrocher, on a juste besoin d'attendre son retour et on fait ce qu'on veut. C'est ça que le monde veut nous dire aujourd'hui. Mais l'explication ici pour la conclusion de cette parabole du festin des noces dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'appel est adressé à un assez grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nos sites web reçoivent chaque mois des centaines de milliers de visiteurs uniques en provenance de pays du monde entier. Il y a beaucoup moins de personnes qui assistent aux assemblées que cela, c'est sûr. Ce processus de diffusion de la semence, de la parole de Dieu, a été conféré par Jésus-Christ à ses disciples et c'est l'Église qui prend le relais. Il est un processus très important. L'une des principales raisons pour lesquelles l'Église a besoin de bien fonctionner, c'est pouvoir prêcher l'Évangile. Dans Jean 15, il est comparé à un vignoble. Encore pour prendre cet exemple de semence, d'une production et d'un produit un fruit. Un vignoble sain produit de délicieux fruits en abondance. Le vrai cep, c'est Christ. Ainsi, tout vrai fruit doit être le produit de l'appel de Dieu par Christ. Dans un autre passage, Jésus évoque la nécessité pour les ouvriers de récolter la moisson spirituelle que produit l'Église. Il dit que les laboureurs sont pas assez. Peut-être devrions-nous examiner de plus près ce que signifie être appelé. La Bible le compare à une invitation, par exemple, à ce festin des noces. Si nous regardons attentivement, nous voyons que tous ne sont pas invités au festin des noces et que même beaucoup de ceux qui sont invités refusent cette invitation. Par conséquent, la fête des noces est réservée aux prémices de Dieu, ceux qui assisteront à cette fête, cette festin des noces, sont les prémices de Dieu. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu au retour de Jésus-Christ, ceux qui ont produit du fruit, qui ont resté fidèles. L'appel lancé par Dieu le Père est toujours pour la fête des noces. L'invitation, comme je vous ai expliqué, est pareille. C'est une invitation à la première résurrection. C'est ça qui fait que l'appel soit tellement universel. Il y a une possibilité d'être appelé, bien sûr, au ministère ou appelé à une vocation, mais ce n'est pas la même chose que l'appel de Dieu. Tous ceux qui reçoivent cet appel sont invités, qu'ils acceptent ou non l'invitation. Dieu le Père n'a pas décidé d'appeler certains à une autre sorte de résurrection ou à un autre objectif. Nous sommes tous appelés pour rencontrer Jésus-Christ à son retour. Mais, comme c'est expliqué en Luc chapitre 8, il y a des terres différentes, des cœurs qui se sont différents. Prenons maintenant 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et le verset 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Autrement dit, l'appel de Dieu n'a pas changé. C'était prévu qu'il nous appelle à cette magnifique réalité par la grâce de Dieu dès le commencement. C'est pour le salut et le processus par la sanctification de l'Esprit reste pareil aussi, par la foi en la vérité. Tout est ancré, tout a déjà été conçu bien avant. Et puis ça continue au verset 14. « C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc tout le monde qui reçoit cette invitation est appelé jusqu'à ce point-là. Ce n'est pas les personnes qui sont les descendants d'Abraham qui vont recevoir un héritage plus important que ceux qui sont des nations, des païens. Tout le monde a accès à cet appel à la vie éternelle, à la gloire de Dieu. Dieu ne fait plus différence dans ce sens-là. Il nous appelle. Est-ce que nous acceptons cet appel? C'est ça qui fait la différence. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 9. C'est très encourageant de voir que nous sommes appelés jusqu'à ce point-là, à la gloire de Dieu. Verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Wow, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Puis ça continue au verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît ces choses, ou les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Cet appel, cette possibilité d'hériter l'héritage de Jésus-Christ, de partager cet héritage avec lui. Seuls quelques-uns sont prêts à abandonner complètement leur vie comme de bons soldats. Le soldat inconnu a abandonné sa vie, a donné sa vie pour son pays. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes déjà sous l'autorité du royaume de Dieu. Donc nous ne sommes pas des soldats pour le monde. Nous sommes des soldats pour Jésus-Christ, pour le royaume à venir. Donc notre lutte, c'est une lutte spirituelle, n'est-ce pas? Mais c'est sûr qu'au Moyen-Âge, les papes ont essayé de convaincre les personnes que cette lutte était bien pour eux, c'était bien pour l'Église, c'était les croisades, si vous avez compris, les croisades du Moyen-Âge. Ils ont appuyé sur ces choses pour dire, vous pouvez aller tuer, vous pouvez aller tuer les Sarrasins et tout le monde pour lutter contre les forces de ce monde. Mais nous comprenons aujourd'hui que nous sommes obligés de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et même à la fin de sa vie, quand les personnes sont venues le prendre en prison, il a dit à Pierre, mets ton couteau de côté. Ce n'est pas en ce moment que nous allons lutter contre les forces de ce monde. Il nous a montré l'exemple de ce que c'est la lutte spirituelle, ce que c'est le bon combat. Donc il ne faut pas avoir une confusion là-dessus. Nous ne sommes pas des personnes qui vont aller lutter physiquement contre d'autres croyances, d'autres qui sont aveuglés pour aujourd'hui. Donc, Matthieu 19. Quand nous recevons l'appel de Dieu, nous recevons cet appel avec des promesses. Et il faut faire un choix. Encore une fois, ce n'est pas donné, c'est un choix que nous faisons. Nous faisons un choix de suivre Dieu ou de rester accroché à ce que nous avons, ce que notre vie a déjà produit pour nous. Matthieu 19, verset 17. Il lui répondit, donc, il y a au verset 16, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Donc, encore une fois, c'est cette promesse qui est connue. C'est comme s'il avait reçu l'appel, parce qu'il comprend pourquoi il est là. Il comprend le but de toute chose. Puis, verset 17, il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. » Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoreras point, C'est des choses que nous avons vues dans le serment sur la montagne aussi et dans les 10 commandements. Donc, il répète un peu ce qu'il a déjà prêché, et c'est un résumé de ces choses. Tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour lui, il pensait avoir tout fait. Il connaissait la loi de Dieu. Il était élevé dans la loi de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme, verset 20, lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc, il aurait pu devenir un bon soldat pour Jésus-Christ, mais il a abandonné. Il a abandonné pour retrouver sa vie quotidienne. Ce n'est pas forcément les richesses qui font qu'on abandonne la voie de Dieu. Cela peut être la famille, les habitudes personnelles. Cela peut être tout ce que l'on met avant ou au-dessus de Dieu dans notre vie, en priorité. Luc, chapitre 9, donne un autre exemple pour expliquer la priorité exigée par Dieu, par l'Éternel, pour devenir un bon soldat dans ce sens-là. Sommes-nous engagés comme ceci? Luc chapitre 9 et le verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, ou lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Autrement dit, ça peut être difficile. Ça va être difficile. Ce n'est pas facile ce chemin. Puis, verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc ça, c'est un engagement jusqu'à la fin. Un engagement complet, comme un bon soldat. Et ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour notre propre gloire que nous sommes aussi tenaces, aussi persévérants, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce que nous avons envie de plaire à Dieu. Même s'il faut abandonner certaines choses, même jusqu'au point des liens familiaux qui nous empêchent de mettre Dieu en première priorité dans notre vie. C'est difficile. Il ne nous demande pas de ne pas aimer nos frères et sœurs, notre famille physique, mais il nous demande de mettre Dieu en avant. Considérons maintenant notre troisième catégorie, si vous voulez, les noms, les personnes qui ne sont pas appelées, les personnes qui sont appelées. Maintenant, passons aux élus, autrement dit, les choisis. Et reprenons juste le chapitre 8, on était très près, donc Luc 8 et le verset 14 maintenant. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Bon, c'est très important que chaque vigne, chaque partie porte de fruits. Nous avons déjà souligné l'importance d'avoir l'esprit en nous, de porter le fruit. que c'est Dieu qui nous donne la possibilité d'entrer en sa présence. Et puis tout au long du Nouveau Testament, les mots choisis et élus se réfèrent aux membres de l'Église. Dans la plupart des cas, à ceux qui sont condamnés par ce qu'ils entendent. Ils se repentent, ils croient à la bonne nouvelle, ils sont touchés au cœur, comme ils étaient le jour de la Pentecôte, quand ils ont entendu le serment de Pierre. Ils croient à cette bonne nouvelle du royaume et ils commencent à croître parce qu'ils sont prêts à changer. Ils sont prêts, ils ne sont pas comme le jeune riche. Ils acceptent de tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Les élus ne sont pas encore des héritiers, mais une couronne de vie est devant leurs yeux, comme l'écrit Jacques dans Jacques chapitre 1. Leurs noms sont aussi écrits dans le livre de la vie, comme Paul explique dans Philippiens chapitre 4 et le verset 3. En tant que soldat, la croissance doit continuer. Avant que le fruit spirituel n'atteigne sa pleine maturité, les élus sont toujours à risque d'être séduits ou d'abandonner. Considérons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 et le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il y en a qui vont entrer en rébellion. Mais d'autres disent, bah, si c'est aussi pire que ça, pourquoi me faire baptiser? Si je risque de tout perdre, moi je préfère juste attendre la deuxième résurrection. J'ai déjà entendu des discours, des discussions par rapport à cette idée que, oh, moi je ne vais pas me faire baptiser parce que j'ai peur que si je me fais baptiser, je vais abandonner et puis je vais tout perdre. Donc, je préfère juste rester en distance, juste connaître un peu. Et si Dieu le choisit, moi, je vais juste attendre la deuxième résurrection. Nous sommes appelés à un appel. Nous attendons la réalisation de cette promesse. Est-ce que nous pensons que ça sera plus facile pour eux qui vont attendre la deuxième résurrection? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça... C'est prévu que ça soit plus facile pour ceux qui seront dans la deuxième résurrection. Est-ce que c'est juste que ça soit plus facile pour les uns que pour les autres? Encore une fois, il y a des mystères, mais nous savons qu'il y a quand même une période de jugement dans la deuxième résurrection. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'ils vont vivre une vie avec des épreuves, avec des difficultés aussi? Si on connaît Dieu, si on connaît sa vérité, il vaut mieux s'engager, comme Paul explique à Timothée, comme un bon soldat dès maintenant, pour persévérer jusqu'à la fin. Certains tergiversent en pensant qu'ils prendront des décisions aussi importantes quand ils ne pourront plus rien faire d'autre de leur vie, plus tard, quand je serai plus âgé. Mais l'appel est pour aujourd'hui. L'appel est pour maintenant. La réponse à l'appel de Dieu est pour aujourd'hui. Il y a des élus qui ne resteront pas fidèles. Certains de ceux qui s'éloignent assisteront toujours peut-être aux assemblées pour diverses raisons, mais spirituellement, est-ce qu'ils vont développer des fruits? Nous devons faire de notre mieux pour notre propre salut. Devrions-nous attendre à ce que Dieu accepte que ce que nous définissons comme un bon comportement, ce que nous définissons comme obéissance, ce que nous définissons comme fidélité, ou est-ce que c'est pas à nous de s'adapter à la définition qui existe dans la Bible? Il y en a tellement dans l'époque moderne qui disent qu'ils peuvent définir leur propre adhérence à la loi de Dieu ou le non-respect de la loi de Dieu complètement. Mais la loi de Dieu existe pour une raison, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous exhorter. Sinon, on risque de tomber dans la même logique qui a été très séduisante à Adam et Ève dans le jardin, où le serpent dit « Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Allez faire ce que vous voulez. » Nous sommes avertis que si nous allons rester fidèles, il faut s'adapter, il faut respecter, s'humilier devant la loi, de Dieu. Maintenant, considérons notre quatrième catégorie, les fidèles. Certains de ceux qui sont choisis se révéleront fidèles. Encore une fois, c'est comme le soldat inconnu. Nous n'avons pas les noms de ceux qui vont rester fidèles jusqu'à la fin aujourd'hui. C'est encore un mystère. Mais ça sera quand même un moment intéressant lors de la première résurrection de voir qui sont ceux qui étaient considérés comme fidèles. Ça va nous apporter de la joie, je suis sûr, si nous sommes fidèles, si nous restons fidèles jusqu'à la fin. Considérons 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 10. Depuis le mois de février et le mois de mars, nous avons vécu des épreuves. Nous avons vécu des moments très difficiles. Nous sommes peut-être anxieux. Nous sommes peut-être plus stressés. Nous avons vu de la souffrance. Est-ce que ça nous a touché notre famille? Oui. Même si nous n'avons pas de membres de notre famille qui sont morts de ce virus, ça nous a tous impactés. Ça nous a tous touchés. Nous sommes dans un moment où les élus sont même à l'épreuve. Est-ce que nous allons rester fidèles? Il ne faut pas que nous souffrons de ce découragement et de cette sorte d'esprit d'abandon qui existe dans le monde maintenant. Vous savez qu'il y a tellement qui abandonnent leur famille, qui abandonnent leur vie même. Considérons 2 Pierre maintenant, chapitre 1 et le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Vous ne brancherez jamais. Ça continue au verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Assurez-vous que votre appel et votre élection soient sûrs, fermes, forts, stables, en tenant fermement à ce qui est bon. 1 Pierre, chapitre 5, juste sur l'autre page pour moi, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous allons rester toujours fidèles? Beaucoup qui sont quittés l'Église, ou qui ont quitté l'Église en 95, ils pensaient que la loi de Dieu était devenue un fardeau. Ils pensaient que les fêtes de l'Éternel, que le sabbat était devenu un fardeau. Ils étaient parmi ceux qui ont été appelés, qui ont été choisis, baptisés. Mais ils ne sont pas restés fidèles. Ils ont quitté. Est-ce que nous aurions pu avoir un emploi plus intéressant si on ne respectait pas le sabbat? Est-ce que nous pourrions acheter quelque chose de plus intéressant pour notre famille si on ne faisait pas les dîmes? Est-ce que nous cherchons à comprendre l'importance de ne pas lâcher, de ne pas abandonner à cause de ces choses que le monde peut nous dire? Le monde peut dire, t'as plus besoin de faire ça. Ces choses sont des fardeaux. Ces choses représentent du passé. Mais est-ce que nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous a donné sa loi, qui nous a révélé cette vérité et que nous ne l'allons jamais abandonner, même s'il faut faire des sacrifices comme un bon soldat? Nous devons nous concentrer sur notre préparation spirituelle pour rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Alors, revoyons très vite les quatre catégories. Les non-appelés, ou les personnes qui ne sont pas appelées, les appelés, les élus et les fidèles. Vous êtes appelés, vous êtes choisis ou élus. Ceux qui auront été fidèles comparaîtront devant leur commandant en chef, qui leur dira très bien, « Tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. »